parce que je pense que pour le déroulement de la retraite et éventuellement les petits ennuis que le diable peut vous faire, c'est plus utile de parler du combat spirituel dès maintenant. Saint Paul nous en parle d'une manière très claire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa vertu. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir contre les embûches du démon. Car ce n'est pas seulement contre la chair et le sang qu'il nous faut lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Donc combat contre le diable et les démons, combat contre le vieil homme aussi. Et puis, il y en a un troisième, qui est le monde. Saint Jacques dit d'une manière très claire, « Qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Saint Jacques au chapitre 4. « Qui se fait l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu. » Et notre Seigneur lui-même, dans sa prière sacerdotale, dit « Je ne prie pas pour le monde. » Je ne prie pas pour le monde. Donc, il y a quelque chose. C'est pas notre Seigneur qui parle. Donc il y a un combat, et bien sûr l'enjeu de ce combat est très important, hein, c'est notre salut éternel ou notre damnation. Pour le diable, c'est une victoire que notre médiocrité, victoire que notre tiédeur, ou victoire que nous soyons dans le péché mortel. Et au contraire, pour notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une victoire que nous soyons en état de grâce, ou dans la ferveur, et mieux encore, dans la sainteté. C'est ou l'un ou l'autre. Donc il faut que la victoire, elle soit du bon côté. Ça dépend de nous. Alors les ennemis en présence, d'une manière simple, il y a la cité de Dieu et la cité de Satan. Vous connaissez cette parole de saint Augustin, « Deux amours ont fait deux cités ». L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité de Satan. Donc deux amours ont fait deux cités. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a fait la cité de Dieu, et l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité de Satan. Et vous, oh, je ne sais plus les références. Et vous pouvez aussi lire dans la Genèse au chapitre 3, donc juste après le péché originel. C'est important parce que cela montre que le combat et les deux cités existent depuis le tout début. Donc nous ne pouvons pas fuir ce combat. Donc après le péché originel, Dieu parle à chacun des personnes en jeu, donc à Satan, à Ève et à Adam. Et à Satan, il dit, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu la mordras au talon, mais elle t'écrasera la tête. » Alors, ce qui est important déjà, c'est « Elle t'écrasera la tête », donc la victoire est assurée du bon côté contre Satan, dès le début. Donc, ça doit nous rassurer. Mais une inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Donc il y a deux côtés. Satan et sa descendance, donc tous ceux qui suivent Satan et ses principes. Puis il y a l'autre côté, la femme, c'est-à-dire la Sainte Vierge, sa descendance, notre Seigneur Jésus-Christ, et puis nous. Tous les bons chrétiens, tous les bons fidèles, se trouvent de ce côté-là. Il y a donc deux qui s'opposent, une inimitié, une opposition, un combat. Donc nous ne pouvons pas y échapper. Donc vous avez Jésus-Christ d'un côté et les démons, le démon de l'autre, les bons anges, les mauvais anges. Vous avez l'Église et les béatitudes et de l'autre côté le monde et ses principes mauvais. Donc vous avez Jésus, les démons, Jésus les bons anges et puis les mauvais anges. Vous avez l'Église et les béatitudes, l'Évangile. Et de l'autre côté, le monde avec ses maximes, ses faux principes. Puis vous avez, ben, nous. Mais le combat, il est en nous aussi. En nous, il y a l'homme régénéré par la grâce, l'homme nouveau, comme dit saint Paul. Puis vous avez le vieil homme. Et ça, les deux sont en nous et les deux s'opposent. Saint Paul dit bien qu'il y a une lutte intérieure entre l'homme nouveau régénéré par la grâce et le vieil homme marqué par les tendances du péché originel. Nous avons à mener une triple bataille contre le démon et les mauvais anges, bien sûr, contre le vieil homme et ses tendances mauvaises, et aussi contre le monde et ses séductions. Alors cette bataille, quand finira-t-elle? Au ciel, pas avant. Nous n'avons pas le choix. Au ciel. Alors attention à la lassitude du combat. Attention. Il ne faut jamais se relâcher. Il faut reprendre courage dans le combat. C'est le danger. On peut se laisser aller un petit peu. On se fatigue spirituellement. Saint Macaire, donc l'un des pères du désert en Égypte, dans les 4e siècle, ceux-là seuls seront à même de poursuivre le combat jusqu'au bout, qui ont toujours aimé Dieu seul et qui ont renoncé à tout amour du monde. Mais bien peu de gens se montrent tels à recevoir cet amour, à renoncer aux satisfactions et aux désirs du monde, et à supporter vaillamment les oppositions et les tentations du malin. Beaucoup veulent obtenir le royaume sans effort, sans combat, sans verser de sueur, mais cela n'est pas possible. Notre Seigneur nous dit bien, le royaume des cieux appartient à ceux qui se font violence, donc qui combattent, hein, non pas violence au mauvais sens du terme, bien sûr, mais à ceux qui font effort. Alors, nous allons voir les trois ennemis, le vieil homme, le monde et Satan. Alors, petite précision, ces trois ennemis avancent presque toujours masqués, cachés. Donc, il faut arriver à les discerner. Ce n'est pas toujours facile parce que, bien sûr, chacun des trois agit en nous, mais vous avez aussi le bon Dieu, l'Esprit Saint qui agit en nous. Il faut arriver à faire ce discernement, et cela n'est pas toujours aisé. Ce qu'on appelle le discernement des esprits, et il y a des règles. Saint Ignace de Loyola ayant résumé ces règles dans ce qu'on appelle les règles du discernement des esprits. Alors le vieil homme. Le vieil homme, c'est la triple concupiscence. Des yeux, de la chair et l'orgueil de la vie. Saint Jean qui parle ça dans sa première épître. Donc la triple concupiscence, ce sont les restes du péché originel. Bien sûr, le baptême a ôté le péché, mais ces tendances sont encore présentes. Ces tendances mauvaises sont encore présentes et elles sont variées de l'un à l'autre. Chacun a une tendance mauvaise qui prédomine. Ça peut aussi varier au cours de la vie. Et suivant les efforts que nous faisons, bien sûr, pour les diminuer. Alors le bon Dieu l'a permis. Le Concile de Trente, donc c'est l'enseignement de l'Église, nous dit que la concupiscence au foyer du péché est laissée pour nos combats. Donc vous voyez, le bon Dieu l'a laissée pour nos combats. Alors cette concupiscence vient du péché originel, elle n'est pas le péché. Bien sûr, elle peut entraîner au péché, mais elle n'est pas le péché. Ça, c'est le contraire de Luther. Donc, la concupiscence au foyer du péché est laissée pour nos combats. Elle n'est pas capable de nuire à ceux qui, n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Donc, elle n'est pas capable de nuire à ceux qui, n'y consentant pas, résistent avec courage par la grâce du Christ. Vous voyez, l'enseignement de l'Église, qui bien sûr correspond exactement à l'Écriture, mais c'est encourageant. Nous savons que par la grâce de Jésus-Christ, et en combattant, nous serons victorieux. Mais il faut accepter le combat, il faut accepter le renoncement, bien sûr. Et le Concile cite saint Paul, la deuxième épître à Timothée, 2 Timothée 2, chapitre 2, donc, « Celui qui aura combattu selon les règles sera couronné. » Alors, si vous avez le livre de l'imitation, vous pouvez aller voir à la troisième partie, au chapitre 54. Je n'en ferai pas la lecture, c'est assez long, mais si vous avez un moment, lisez-le. Troisième partie, chapitre 54, c'est les divers mouvements de la nature et de la grâce. Donc la grâce agit, puis il y a le vieil homme, puis l'un l'autre s'oppose plus ou moins. Alors qu'est-ce que nous devons faire dans ce combat en général? Je vais voir donc ce combat contre la concupiscence, la triple concupiscence d'une manière générale, puis après je donnerai quelques indications pour chacune des concupiscences. Pour dire que ce combat, c'est la mort et la vie. Vous avez l'épître et l'évangile du sixième dimanche après la Pentecôte, donc ça fait 2-3 dimanches. Sixième dimanche après la Pentecôte, vous pourrez lire, relire cet épître et cet évangile. C'est la mort au péché et la vie pour Dieu. Voilà le combat que nous devons mener. Mort au péché et vie pour Dieu. Je vous cite saint Paul dans l'épître aux Romains. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez spirituellement. Mais si par l'Esprit Saint vous mortifiez la chair, vous vivrez. Et cet épître de saint Paul s'est succédé les 2 ou 3 dimanches de suite. Vous avez dû remarquer. C'est la logique de notre baptême, dit saint Paul. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, mort pour nous, mort mystique, mort au péché, afin que comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi, nous marchions dans une vie nouvelle. Nous soyons ressuscités spirituellement. Regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Donc, mort au péché et vie pour Dieu. Mort et vie, quoi. Alors, mortification, donc renoncement. Vous avez entendu Mgr Lefebvre qui ne fait que répéter ce que l'Église a toujours dit, ce que les saints ont toujours dit, la mortification, le renoncement sont nécessaires pour faire mourir ces tendances mauvaises. Non pas pour détruire notre nature, hein, attention, notre nature a ses qualités, ben, ses qualités, il faut les développer. Et justement, pour les développer, il faut ôter les obstacles, donc les tendances au péché. Nous avons les qualités naturelles et surnaturelles. Pour qu'elle puisse se développer, il faut ôter les obstacles, donc faire mourir ces tendances mauvaises. Or, en général, on dirige ce combat contre le défaut dominant, celui qui prédomine sur les autres. Alors, une fois qu'on l'a éliminé, ben, on peut en attaquer un autre, et ainsi de suite. Le but, eh bien, Monseigneur disait cela, il faut se dominer, autrement dit, être maître chez soi. Le chef chez nous, c'est l'intelligence et la volonté, c'est l'âme, c'est pas le corps et ses passions, c'est pas la concupiscence, c'est pas nos petites envies, nos petits ceci, nos petits cela, non, non. Le chef, c'est moi qui décide, c'est tout. Puis en dessous, bah, faut que ça obéisse. Non, ça craint, c'est un peu, mais faut que ça obéisse. Oui, mais il y a des choses toutes simples. La manière de se tenir lorsque nous sommes assis. Est-ce que l'âme commande ou c'est le corps qui prend ses aises? C'est tout. Être maître chez soi. Celui qui est mort au péché est affranchi du péché, dit saint Paul. Donc, cela nous donne la liberté, la vraie liberté. Ce combat, en faisant mourir les tendances au péché, nous donne la vraie liberté. Alors, il faut se faire violence. C'est dans Matthieu chapitre 11 que notre Seigneur dit « Le royaume des cieux souffre aux violences et les violents le ravissent. » C'est impressionnant, hein, cette parole de notre Seigneur. « Le royaume des cieux souffre aux violences et les violents le ravissent. » Aux violents, non pas envers les autres, mais envers ce qu'il y a de mauvais en nous-mêmes. Et envers les difficultés, bien sûr, qui peuvent se présenter. Alors, il faut donc se faire violence, surveiller, et petite application pratique, il faut éviter l'empressement excessif à ce qu'on fait. Cet empressement vient des passions. Donc il ne faut pas agir sous le coup d'une passion qui est active, qui s'est réveillée. Évitez. Prenez le temps qu'elle se calme, priez, réfléchissez. Mais n'agissez pas sous le coup d'une passion qui est surexcitée. Vous ne ferez rien de bon, ce n'est pas la peine. Donc, le combat, ça peut être s'arrêter, attendre que le calme revienne, avant de décider ou d'agir, ou de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toujours facile. Et surtout que cette passion surexcitée peut demeurer surexcitée longtemps. Alors il faut savoir attendre. Et prier, parce que par la grâce de Dieu, surtout lorsqu'on va prier devant le Saint-Sacrement, cela veut beaucoup diminuer. Alors, pour cette victoire, il y a un sacrement. Pour cette victoire et cette liberté que nous donne la mortification, il y a un sacrement, c'est la confession. La confession. La confession, c'est le sacrement de cette victoire-là, de cette liberté-là. La confession donne une grâce spéciale pour arracher les mauvaises tendances, ou les mauvaises herbes, si vous voulez, du jardin de notre âme. C'est la grâce particulière de la confession, arracher les tendances mauvaises. Par conséquent, si nous voulons vaincre au combat, prenons l'arme que Jésus, l'arme spéciale que notre Seigneur nous a donnée, la confession. Et les saints sont exemplaires pour cela. Saint François de Sales, à un moment de sa vie, se confessait tous les jours. Ce n'était pas pour des péchés mortels, soyez tranquilles. C'est pour vaincre quelque chose, pour se vaincre, pour triompher. Tout simplement, il passait pour le plus doux des hommes, mais il était très, de nature très colérique. Probablement que c'est la raison pour laquelle, à un moment de sa vie, il a dû se confesser souvent. Pour vaincre. Ensuite, la vie pour Dieu, parce qu'il ne suffit pas d'enlever quelque chose, il faut remplir. Il faut remplir de la grâce de Dieu, de l'amour du bon Dieu. Ben ça, c'est les vertus. Mettre les vertus dans notre âme. La vie pour Dieu, les vertus. Donc la vie pour Dieu, ben, c'est la charité, c'est faire la volonté de Dieu. La charité et faire la volonté du bon Dieu, c'est quasiment identique. Ma nourriture, je répète encore, ma nourriture, dit notre Seigneur aux apôtres, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La nourriture de l'âme, c'est ce qui fait vivre. Accomplir la volonté de Dieu fait vivre notre âme pour Dieu, la vie pour Dieu. Accomplir la volonté de Dieu fait vivre notre âme pour Dieu. Et au contraire, ne pas faire cette volonté prive de la nourriture, ça fait mourir. C'est le péché. Donc la vie pour Dieu, c'est l'établissement de toutes les vertus, mais cela passe par l'obéissance à la volonté de Dieu, surtout par là. La perfection se trouve dans l'amour et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et il y a un sacrement de cette vie pour Dieu, c'est l'Eucharistie. Il y a un sacrement de cette vie pour Dieu, de cet établissement des vertus, de cet accomplissement de la volonté de Dieu. Ce sacrement, c'est l'Eucharistie. La messe, la communion. Donc, dans ce combat contre les tendances mauvaises, et je veux dire aussi contre le monde et contre le diable, vous avez la mortification et la pratique des vertus, l'obéissance particulièrement, avec deux sacrements, la confession et la communion, et tout est là. Tout est là. Quelqu'un qui prendrait la résolution de se confesser bien régulièrement et de bien se confesser, nécessairement, il ferait des progrès. Je dis bien se confesser, hein, c'est-à-dire que c'est accompagné de résolutions par lesquelles nous faisons des progrès, nous essayons de faire des progrès. Donc le principe général du combat contre le vieil homme, c'est la mort au péché, contre la tendance mauvaise, contre le défaut dominant, avec un sacrement, la confession, et la vie pour Dieu, faire la volonté du bon Dieu, c'est la charité, et un sacrement, l'Eucharistie. Alors, dans ce combat, le bon Dieu nous donne de temps en temps des consolations ou des désolations. Alors, il nous donne des consolations pour nous encourager à faire les efforts. Puis parfois, il enlève ses consolations. Alors, on a l'impression que le bon Dieu nous abandonne. Non, non, non. Alors, attends. Attention, il faut connaître un petit peu ces règles du discernement des esprits. Il ne faut pas être dans l'illusion en s'attachant aux consolations de Dieu plus qu'au Dieu des consolations. C'est Dieu qu'il faut chercher, non pas ses consolations. Et parfois, nous trouvons Dieu dans l'aridité, dans la désolation, mais du moment que nous faisons sa volonté, même si tout nous est pénible, horrible, insupportable, du moment que nous savons que c'est la volonté de Dieu, ben ça va. Et non, c'est pas très facile, c'est pas très drôle, mais c'est le bon chemin. Nous voici ce que dit Saint Ignace. De la consolation spirituelle. J'appelle consolation un mouvement intérieur qui est excité dans l'âme, par lequel elle commence à s'enflammer dans l'amour de son Créateur et Seigneur, et en vient à ne savoir plus aimer aucun objet créé sur la terre pour lui-même, mais uniquement dans le Créateur de toutes choses. La consolation fait encore répandre des larmes qui portent à l'amour de son Seigneur, l'âme touchée du regret de ses péchés ou de la passion de Jésus-Christ, notre Seigneur, ou de toute autre considération qui se rapporte directement à son service et à sa louange. J'appelle enfin consolation toute augmentation d'espérance, de foi, de charité, toute joie intérieure qui appelle et attire l'âme aux choses célestes et aux soins de son salut, la tranquillisant et la pacifiant dans son Créateur et Seigneur. Donc le bon Dieu agit dans notre âme, bien sûr. Il nous encourage dans ce combat intérieur. Or, la désolation, ben, c'est l'inverse. J'appelle désolation le contraire de ce qui était dit. Les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres. L'inclination aux choses basses et terrestres, ben, c'est la manifestation de nos tendances mauvaises qui ne sont pas encore mortes. Les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance, sans amour, triste, tiède, paresseuse, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre. Oui, le bon Dieu veut que nous ayons ces désolations pour nous apprendre à l'aimer pour lui, et non pas pour les avantages que nous en recevons, pour nous purifier. Bon, je vous invite à lire ce petit livre, La règle du discernement des esprits, que le père Bayal avait fait. C'est un commentaire des règles du discernement des esprits de Saint Ignace. Le père Bayal en a fait un petit commentaire qui est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour la désolation? Parce que dans la consolation, tout va bien. Au contraire, on est poussé à avancer. Alors là, pas de problème. Nous serions prêts à faire n'importe quoi. C'est surtout la désolation que c'est plus difficile. Alors, qu'est-ce que dit Saint Ignace? C'est une règle d'or, hein. Il importe au temps de la désolation de ne faire aucun changement, mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation ou au temps même de la consolation. Donc, ne rien changer. Tenir à ses résolutions et ne pas bouger. Ça, c'est un principe très, très... C'est la volonté qui va agir. La volonté toute seule va s'accrocher. Et c'est là le combat, bien sûr. Car comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation, ainsi dans la désolation, est-ce le mauvais esprit ou bien les mauvaises tendances qui sont en nous, qui, sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin. Quand le bon Dieu retire sa consolation, on a l'impression qu'il s'en va. Mais il ne s'en va pas, hein. Il est là avec sa grâce et il nous aide. Mais ce n'est pas manifesté. Il reste simplement manifesté ou le diable qui agit ou nos tendances mauvaises. Ben, comme il faut écouter ni l'un ni l'autre, restons attachés à nos résolutions qui, elles, sont l'expression de la volonté de Dieu et de l'action du Saint-Esprit. On reste attaché à nos résolutions. Ça va être dur, pénible, ça va être... il va y avoir un combat, une lutte. Mais il faut rester. J'ai pas envie de prier, ça me dégoûte, etc. Non. Vous allez prier. C'est tout. Donc, la fermeté, la constance dans ces résolutions sans rien changer, c'est là où nous portons notre croix. Alors, Saint Ignace, qui était un officier, donc, aussitôt il parle d'une autre règle, la contre-attaque. Quoique nous devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes, je veux dire notre manière d'agir, et de la diriger tout entière contre les attaques de la désolation. Ainsi, il convient de donner un peu plus de temps à la prière, de méditer avec plus d'attention, d'examiner plus sérieusement notre conscience, et de nous adonner davantage aux exercices convenables de la pénitence. Autrement dit, nos résolutions, ben, les intensifier. Au lieu de dire, j'ai pas envie de prier, donc je vais pas prier. Non, c'est l'inverse. La contre-attaque, c'est je vais prier et je prie un peu plus. Ah, évidemment, faut être courageux, mais la grâce du bon Dieu va vous pousser en ce sens-là. Vous suivra dans ce sens-là. Elle est là, présente, pour que vous alliez dans ce sens de la contre-attaque et de la fermeté dans les résolutions. Alors que si vous cédez, vous quittez la grâce. Là, vous êtes livré à vous-même, effectivement. Enfin, nous sommes livrés. Donc, dans les tentations, dans les désolations, lorsque ça ne va pas, il faut prier un peu plus. Un petit peu de pénitence, un petit peu de renoncement. Ça ne plaît pas au diable en général, ça ne plaît pas à la nature, mais ça plaît au bon Dieu. Alors, vous êtes sûr que la grâce pourra venir. Avec la modération et la discrétion qu'il faut, bien sûr. Mais rajouter une minute de plus à sa prière, ce n'est pas grand-chose. C'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous savez, je vous l'ai déjà dit, le bon Dieu reste présent avec sa grâce, mais il ne manifeste pas sa présence et son aide. Il enlève la consolation, mais la grâce est toujours présente. Donc nous pouvons toujours utiliser cette grâce pour triompher dans le combat, à condition de demeurer dans la ligne, dans la direction de cette grâce. Et le bon Dieu, sa direction, c'est la fermeté dans nos résolutions, bien sûr. Voici ce que dit Saint Ignace, que celui qui est dans la désolation considère comment le Seigneur, pour l'éprouver, le laisse à ses puissances naturelles, afin qu'il résiste, comme de lui-même, aux diverses agitations et tentations de l'ennemi. L'ennemi est double, hein. Il y a le diable, puis il y a nos tendances mauvaises. Car il le peut avec le secours divin, qui lui reste toujours, quoi qu'il ne le sente pas, parce que le Seigneur lui a soustrait cette ferveur sensible, cet amour ardent, cette grâce puissante, ne lui laissant que la grâce ordinaire, mais suffisante, pour le salut éternel. Donc il y a ce qu'il faut. Ne pas nous inquiéter, mais il va falloir batailler. Il faut consentir à cette bataille, il faut la vouloir. À l'avance, ce qui peut aider sur le moment même. Bien sûr, le bon Dieu permet ces tentations pour notre bien. Ça peut être un châtiment, ça peut être une épreuve pour nous faire progresser, ça peut être une leçon, une connaissance pratique de notre misère et de notre besoin de la grâce de Dieu. C'est un excellent moyen de progresser dans l'humilité, bien sûr. Donc ça, Saint Ignace le dit bien, il faut profiter de cela pour s'humilier et s'appuyer uniquement sur la grâce de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, qui jamais ne peut nous faire défaut. Alors ensuite, quelques mots sur le combat en particulier, donc contre chacune des concupiscences. Alors, je vais passer assez vite, je ne sais pas exactement ce qui sera fait dans les autres conférences, mais je vous donne quand même quelques indications. Donc, concupiscence de la chair, tout d'abord, c'est l'amour désordonné des plaisirs de la vie, ceux de la table et les autres, ceux de la chair qui envoient tant d'âmes en enfer. Alors le combat ici, eh bien, il faut nous souvenir que le mal peut entrer par les yeux. Donc, protéger nos yeux de toute image mauvaise, les affiches, la télévision, les revues, tout ce qui peut exciter la convoitise. Ça peut entrer par les oreilles, les conversations, la radio, la télévision. La télévision. C'est pourtant pas compliqué d'appuyer sur un bouton pour l'arrêter. Bah oui, bah c'est difficile. Et la conclusion, on ne le fait pas, on appuie dessus pour regarder, et la conclusion, on tombe dans le péché mortel. Alors, il n'y a qu'une solution, dehors. Ben oui, mais notre âme a coûté le prix du sang de Dieu. Alors on ne discute pas avec ce qui peut nous entraîner au péché mortel. C'est quand même plus facile d'enlever ce machin-là que d'enlever les pensées qui tournent dans notre tête. Quand même plus facile. Alors, puisque c'est plus facile, nous avons le devoir de le faire. Les enfants s'accusent de péché à 6 ans, 7 ans, s'accusent de tentation contre la pureté à cause de la télévision. Alors bon. Et la radio aussi, parce que c'est pas mieux. Vous avez ensuite l'imagination, la mémoire, dans toutes les pensées mauvaises, inutiles, tous les troubles. Alors, bien sûr, beaucoup de ces pensées mauvaises sont entrées par les yeux. Ce qui peuple l'imagination, c'est ce que nos yeux ont vu. Une fois que c'est entré dans l'imagination, ben pour l'en sortir, c'est difficile. C'est un long, long combat. Alors, mieux vaut ne rien faire entrer, évidemment. Alors, lorsqu'il y a des pensées mauvaises qui arrivent, il faut les chasser dès le début. Ces petites indications-là que je vous donne. Il faut avoir une réserve de pensées bonnes, de choses bonnes qu'on aime. Bon, ça peut être profane. Bon, certains aiment la montagne. Bon, ben, ils pensent à la montagne, comme ça. Et comme ils aiment cela, le fait de penser quelque chose qui est bon et qu'on aime attire notre esprit vers ces choses-là et donc les détourne de ce qui est mauvais. Notre esprit ne veut pas avoir deux pensées simultanément en elle. Ou c'est la mauvaise, c'est la bonne. Si la bonne vous intéresse, votre esprit est intéressé, captivé, donc vous fuyez la mauvaise. C'est la fuite dans ce domaine-là, il n'y a pas autre chose. C'est un moyen. Parce que vous pouvez aussi penser, et c'est mieux, à la passion de Jésus-Christ, bien sûr. Notre Seigneur, etc. Notre Seigneur est ce rocher contre lequel les tentations se brisent. Puis éviter l'oisiveté. Contre l'imagination, la mémoire, toutes ces tentations-là. Il faut éviter l'oisiveté, donc aussi savoir bien s'occuper, et puis prier, aimer notre Seigneur. Le grand moyen de triompher de ce genre de tentation, d'attirance mauvaise, c'est l'amour de Jésus-Christ. Donc ça peut entrer par les yeux, les oreilles et être présent dans l'imagination, la mémoire. Il y a aussi les affections déréglées envers telle ou telle personne, une espèce d'affection déréglée. Il y a le cœur qui peut se prendre Alors, il faut faire attention. Il faut donner toute notre puissance affective à notre Seigneur et à Notre-Dame. Là aussi, c'est l'amour de Dieu par-dessus tout qui purifiera ces puissances affectives. Être prêt à tout plutôt que d'être séparé de Dieu. Nous devons consentir à tout plutôt que d'être séparé de Dieu. Donc à toutes les souffrances, à toutes les peines, à la mort même, plutôt que d'être séparé de Dieu. Alors le bon Dieu ne nous le demandera peut-être pas, mais il demande au moins cette disposition dans le cœur. Donc les yeux, les oreilles, l'imagination, la mémoire, les affections déréglées, vous avez la mollesse du corps, le soin trop attentif à bien soigner son corps. Le monde actuel nous met un peu dans la mollesse. Forcément, puisqu'on a tous les moyens matériels d'avoir une vie facile. Alors, il faut lutter contre ça, c'est sûr. Saint François d'Assise appelle notre corps le frère âne. Ben, le frère âne, ça avance avec la carotte et le bâton. Et en certaines choses, il n'y a que le bâton. C'est tout. Alors, il faut faire un petit peu souffrir. Il faut l'obliger à l'obéissance en le faisant un peu souffrir. Alors, il faut trouver un juste équilibre dans ce que nous accordons au corps. Il faut trouver un équilibre. Attention, il ne faut pas... Le corps est l'instrument de l'âme pour faire le bien. Il ne faut pas le détruire. Attention. Hein. Mais néanmoins, comme il est récalcitrant parfois, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut utiliser un moyen ou un autre. À chacun de se connaître et de voir ce qui lui est nécessaire. Ça peut être sur la gourmandise, ôter tout ce qui flotte, bien sûr, etc. Il y a aussi l'immodestie du corps et de la tenue. Là, je vais en parler un petit peu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, je vous invite à lire dans Saint François de Sales sur la modestie. Ce qu'il dit dans l'introduction à la vie dévote, à troisième partie, au chapitre 25. Donc, vie dévote, troisième partie, chapitre 25. Je vous lis un petit bout. Soyez propre, filoté, et qu'il n'y ait rien sur vous de traînant ou de mal agencé. Mais gardez-vous bien des vanités et des affaîtris, il faut traduire bien sûr, des curiosités et des folâtries. Tenez-vous tant qu'il sera possible du côté de la simplicité et de la modestie, qui est sans doute le plus grand ornement de la beauté et la meilleure excuse pour la laideur. Les femmes vaines font douter de leur chasteté, au moins si elles en ont, elle n'est pas visible parmi tant de fatras et de bagatelles. Saint Louis dit en un mot que l'on doit se vêtir selon son état, en sorte que les personnes sages et les gens de bien ne puissent dire « vous en faites trop », ni les jeunes gens « vous en faites trop peu ». L'équilibre à trouver, chacun selon son état. Pie XII en a parlé, et il dit « si certaines chrétiennes soupçonnaient les chutes et les tentations qu'elles occasionnent chez autrui avec leurs vêtements et leur troublante familiarité, auxquelles dans leur légèreté elles n'accordent que peu d'importance, elle prendrait peur de leur responsabilité. » Je crois que sur la modestie, dans le vêtement et dans l'attitude extérieure, il faut faire très attention. Où que nous soyons, ce n'est pas simplement parce que vous êtes au séminaire en retraite, c'est toujours. La bonne tenue, quand on voit dans les voitures... Vous êtes en voiture l'été, tout d'un coup, vous voyez une espèce de pied qui dépasse de la portière. Pas possible. Ben, c'est le corps qui commande. Il prend ses aises, ben, il commande. Donc c'est plus l'âme, l'âme est esclave. C'est tout. Et il faut apprendre à nous tenir, à nous discipliner. Il faut l'apprendre aux enfants, hein, dès qu'ils sont jeunes, les apprendre à bien se tenir. On se dit, pourquoi leur apprendre à bien se tenir? Ben, tout simplement pour que l'âme ait l'empire et le commandement sur le corps. Et s'ils ont appris ça jeune, ben, ça durera, ça restera. Ben, Alors, il faut essayer de tenir son corps droit, ni pencher à droite, ni pencher à gauche, ne pas croiser les jambes, des petits détails comme ça, mais ce ne sont pas des petites choses. Il faut se reprendre sans cesse. Il faut accepter ce combat. C'est la même chose pour le voile à l'église. C'est pour reconnaître l'autorité qui est au-dessus de nous. Donc le principe, il faut éloigner le danger. Qui aime le danger, il périra. Et donc il faut tous ces petits détails, vous me diriez, mais ces petits détails qui permettent de pratiquer à nous-mêmes, qui permettent à nous-mêmes et aux autres de pratiquer la chasteté, la modestie. Donc ensuite, la concupiscence des yeux, là je vais rapidement, c'est surtout la curiosité et puis l'attrait pour les richesses. Alors là, la curiosité, ben, ça, vous savez ce qu'il en est. Puis les richesses, ben, faut toujours quelque chose de nouveau. On passe devant un magasin, on ne peut pas s'empêcher d'acheter quelque chose. Bon, ben, il faut pratiquer le renoncement, il faut pratiquer l'esprit de pauvreté. Avoir le nécessaire et puis faire l'aumône avec joie. Généreusement, se priver un petit peu pour les autres. Et puis fixer les yeux de notre âme sur ce qui dure, ce qui demeure éternellement. Mais non pas sur tous ces petits trucs extérieurs qui disparaîtront bien vite. Bon, je passe sur cela. Bon, la curiosité, faites attention quand même. Ensuite, l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'esprit d'indépendance, l'autonomie, l'égoïsme, la vaine complaisance en soi-même, la vanité, l'obstination. Alors, dans ce combat, il faut essayer de tout rapporter à Dieu. Nous souvenir de ces paroles de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, 1 Corinthiens 4. Que n'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc tout rapporté à Dieu, à sa gloire. Et ce que dit encore saint Paul, toujours dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Que vous mangiez, que vous buviez, ou quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu, même pour boire et manger. Ouf, on dirait pourquoi, on n'y pense pas, mais oui. Faites tout pour la gloire de Dieu, même boire et manger. De manière à ce que cet orgueil qui veut sans cesse se rapporter à nous, nous le détruisions et nous rapportions tout à Dieu. Alors, quels sont les moyens pour détruire cet orgueil et nous mettre dans le bon chemin? L'obéissance et la soumission à un supérieur. Donc le mari pour celles qui sont mariées. L'obéissance et la soumission à un supérieur. À l'imitation de Jésus-Christ, bien sûr. L'obéissance à Dieu dans les épreuves qu'il nous impose. Épreuves qu'il nous impose précisément pour nous guérir de cet orgueil. Mais le bon Dieu est bon. Bon Dieu est bon, alors il nous envoie des épreuves pour nous aider. Prenons ces épreuves comme des grâces de Dieu pour guérir notre orgueil. Ensuite, eh bien, se mêler de ses affaires et pas de celles des autres. Ça ne va pas chez le voisin, mais ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits. Qu'est-ce qui est très utile de faire? Eh bien, deux choses. De se taire devant les hommes et de parler devant Dieu. Ça ne va pas chez le voisin. Eh bien, taisez-vous devant les hommes et parlez devant Dieu, la prière pour aider le voisin. Donc se mêler de ses affaires et pas de celles des autres. Et puis lorsqu'on exerce une charge, une responsabilité ou que ce soit, il ne faut pas en sortir pour prendre une autorité qu'on n'a pas. Ne pas faire quelque chose pour laquelle nous n'avons aucune autorité, aucun pouvoir, aucun mandat. Et qui souvent appartient au pouvoir d'un autre ou d'un supérieur. même si sur le moment il nous paraît nécessaire de faire quelque chose. Mais non, ce n'est pas dans notre autorité, ce n'est pas dans notre pouvoir, ce n'est pas à nous de le faire. Eh bien, ne le faisons pas, même si ça paraît urgent, même s'il semble qu'il faut le faire. Non. Ça va rester dans l'autorité que nous avons, dans la charge, dans la responsabilité que nous avons. Alors surtout pour ceux qui sont généreux à rendre service, il ne faut pas aller trop loin dans sa générosité en faisant ce qui ne nous revient pas. Parce que quand on est généreux, on a tendance à aller trop loin et on en fait trop et on fait ce qui ne nous revient pas. Même sous le prétexte, mais il faut bien que ça se fasse. Et non. Si ça ne revient pas à nous de le faire, ben ne le faisons pas. Oui, mais alors ça, les choses vont pas se faire, ça va aller mal. Laissez faire. Laissez. À chacun ses responsabilités. Alors, sauf urgence, bien sûr. Quand il y a une urgence, qu'on se rend compte que personne ne va le faire et que ça va causer un grand dommage, bon là, il faut agir, bien sûr. C'est le cas d'exception. Mieux vaut que les choses ne se fassent pas plutôt qu'elles se fassent dans le désordre. Mieux vaut que les choses ne se fassent pas plutôt qu'elles se fassent dans le désordre. À chacun son devoir et rien que le sien. Et j'en conclus que de disputes et divisions seraient ainsi évitées dans nos chapelles. À chacun ses oignons. Ben oui, ben oui. Avec l'expérience, on finit par voir les choses. Donc, nous avons vu la triple concupiscence. Donc, l'autre ennemi, le deuxième, c'est le monde et ses séductions. Oh, je vais passer rapidement parce que je voudrais quand même voir le troisième et le combat. Donc, le monde et ses séductions, ce sont tous les hommes opposés à Jésus-Christ qui sont esclaves des trois concupiscences. Ce sont aussi ceux qui veulent accepter le monde, qui veulent accorder le monde avec l'Évangile, par une alliance impure et impossible. Tous les hommes de compromission. On voudrait allier le noir et le blanc. Non, ce n'est pas possible. N'oubliez pas, hein, le prince de ce monde, dit Jésus, c'est le démon. Or, il agit par séduction ou par force. Séduction, bah, tout ce qui nous flatte, tout ce qui nous attire. Donc il nous flatte par les trois concupiscences. Il se présente sous un aspect bon et attirant, mais le mal est caché derrière. C'est là la séduction. Il y a un aspect attirance qui est séduisant, mais derrière, il y a le mal qui est caché. Alors nous, de bien observer, de bien discerner. Et il use aussi de la force. Bon, ça peut être la persécution violente et physique, mais aujourd'hui, c'est plutôt la persécution douce, cachée, feutrée, mais puissante. Alors, je vous donne quelques idées. Intimider, jouer sur le respect humain. Culpabiliser, les mots qui ont une force de frappe, intégriste, le féeriste. Ce sont des mots, hein. Tout. Mais c'est une terrible force de frappe. Menacer l'avancement professionnel, hein, stopper si on est catholique affiché. Le chantage, si vous ne devenez pas franc-maçon, vous aurez des ennuis. Oh, mais c'est juste, hein, j'ai vu certains d'ici peuvent connaître, mais un notaire mis par terre par la franc-maçonnerie. Hein. Il y a 4-5 ans, 6-7 ans, quoi. Complètement ruiné, réputation détruite, c'était terminé en quelques jours, quelques semaines. Parce qu'il avait toujours refusé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Ça peut être la pression économique, bon, les écoles entièrement libres, les familles nombreuses, pression morale aussi, bien sûr. Ou un exemple, hein, de pression morale, visite médicale à une université, eh bien aux étudiantes, on insiste beaucoup pour qu'elles prennent la pilule. Et Et au sein de nos propres familles, bien sûr, il y a la division, il y a l'opposition qui est difficile à porter, mais notre Seigneur nous a prévenus dans l'Évangile. Lisez bien l'Évangile. Vous y trouvez beaucoup de consolation. Le frère livrera son frère à la mort et le père son fils. Les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez en haine à tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu chapitre 10. Alors quel est le combat ici? Eh bien, il faut mettre une séparation entre nous et le monde. Il ne faut pas laisser le monde entrer chez nous. Ça, c'est important. Alors, bien sûr, nous vivons dans le monde. Nous devons user de ce monde comme n'en usant pas. C'est saint Paul qui dit ça quelque part. Donc une certaine séparation, au moins dans notre foyer familial. Il y a des choses qui ne doivent pas entrer. Puis dans notre cœur, bien sûr. Nourrir en nous la véritable espérance. Le monde peut nous taper dessus, de toute façon. Il peut dire tout ce qu'il veut. Nous avons l'espérance en Dieu, l'espérance du bonheur éternel. Alors bon, qu'il crie, de toute façon. Dieu est avec nous, c'est tout. Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Et puis il faut étudier, méditer l'Évangile, étudier la doctrine chrétienne contre le poison des faux principes du monde. Il faut étudier contre les faux principes, lire l'Évangile. Et encore, le contact avec Jésus-Christ dans l'oraison vous donnera beaucoup de force et de lumière. Le contact avec Jésus dans l'oraison. Contre le monde, contre l'esprit du monde. Jésus nous a bien dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais comme vous n'êtes pas du monde parce que vous êtes de moi, ben, le monde ne vous aime pas. Et saint François Sales dit, quoi que nous fassions, le monde nous fera toujours la guerre. Eh bien, laissons cet aveugle filoter, qu'il crie comme un chat huant pour inquiéter les oiseaux du jour. Allez, laissez-le crier, puis c'est tout. Bon. Ensuite, laissez-moi, si vous voulez bien, 5 minutes pour le démon, l'action du démon. Vous avez l'action ordinaire et l'action extraordinaire. Alors, 2 mots sur l'action extraordinaire du démon. Ce sont les sorts, les maléfices, le spiritisme, les prodiges, toutes bizarreries qui ne semblent pas avoir de cause naturelle et qui produit un certain mal. Tout ce qui est bizarre. Ce n'est pas des histoires, hein, ça existe. Hein, comme me disait un paysan comme ça, oui, comprenez, monsieur le curé. Ma barrière est ouverte, puis la vache, elle a sauté par-dessus la clôture. Vous voyez une clôture, hein, dans des champs. La barrière est ouverte, et la vache a sauté par-dessus la clôture. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, c'était ancien ce qu'il m'a raconté, mais il avait encore des reliquats, des ennuis qu'il avait eus auparavant. Donc l'action extraordinaire qui en général passe par l'action d'hommes qui agissent sur les autres. La jalousie, la méchanceté, bon. Ça existe. Alors quand vous voyez des choses un peu bizarres qui arrivent, un peu pas normales, il faut aller en parler au prêtre. Et puis utilisez les sacramentaux, ayez l'eau bénite chez vous. Et quand vous revenez du dehors, prenez l'eau bénite pour vous purifier de toutes les saletés que vous avez pu prendre à l'extérieur. Alors, l'eau bénite, la médaille miraculeuse, le scapulaire, la médaille de Saint-Benoît, bien sûr, tous ces petits moyens, bénédiction des maisons, il faut utiliser tout ça. Il y a aussi parfois le sel béni qui est nécessaire. Mais si vous avez quelque chose de bizarre, il faut en parler aux prêtres catholiques. Et je dis aux prêtres catholiques, pas, n'allez pas chercher les marabouts, les machins, les trucs, comme font certains. Hein. Je sais pas trop quoi. Enfin. Non, il n'y a que l'Église catholique, donc le prêtre, qui peut lutter efficacement contre les influences démoniaques. Donc ça, l'action extraordinaire, qui est de plus en plus fréquente, hein, bien sûr, vu dans le monde dans lequel on vit. Et l'action ordinaire. L'action ordinaire, bah, c'est la tentation, tout simplement. Le diable agit, tourne autour de nous, veut nous faire tomber. Alors, il ne peut pas agir directement contre l'intelligence et la volonté. Donc, si nous tenons ferme à nos résolutions par la volonté, il se heurte à un mur. Il ne peut pas agir sur l'intelligence et la volonté. Mais il peut agir sur le corps, sur les sens extérieurs, sur l'imagination et la mémoire, sur les passions. Agissant sur les sens, sur l'imagination, sur les passions, eh bien, indirectement, il sollicite la volonté à donner son consentement. Mais si votre volonté a pris commandement et empire sur tous vos sens et vos passions, eh bien, on ne peut plus rien faire contre vous. Donc la mortification des passions, arriver à les dominer et à leur commander, vous prémunit contre les actions du diable. Parce que si l'intelligence et la volonté sont soumises à Dieu et dominent en dessous, il n'y a plus de prise. La prise, c'est par les passions, par les sens. Vous voyez que le combat contre le diable passe par la mortification des sens, la mortification du vieil homme. Donc il agit indirectement en sollicitant la volonté à donner son consentement parce qu'il agit sur les sens, sur l'imagination, sur les passions. Bien sûr, il a un pouvoir qui est grand mais qui est limité par Dieu. N'ayons pas peur, le bon Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors, les règles de discernement des esprits, selon saint Ignace, nous allons les lire un petit peu, enfin rapidement. Vous avez la première règle, eh bien, c'est ceux qui sont dans le péché. Qu'est-ce que fait le diable? Eh bien, il les tranquillise. Vous êtes dans le péché, mais c'est très bien, tout va bien, restez là, n'ayez pas peur, vous pourrez vous convertir au dernier moment, bien sûr. Donc il leur propose des plaisirs apparents, il occupe leur imagination de jouissances et de voluptés sensuelles afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le bon esprit agit en sens contraire, il excite dans leur conscience le trouble et le remords en leur faisant sentir les reproches de la raison. Et quand parfois c'est nous qui agissons par le Saint-Esprit pour leur faire ces reproches de conscience, en général ils ne sont pas très contents. Ça arrive, bien sûr, nous disons quelques mots, puis ça tourmente leur conscience. Alors, il y a une certaine réaction, il ne faut pas s'étonner. Alors, ensuite, dans ceux qui font des progrès, des efforts pour aimer le bon Dieu, alors là, ça va être dans le sens contraire. Dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu, notre Seigneur, le bon et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente. Car c'est le propre du mauvais esprit de leur causer de la tristesse, des tourments de conscience, d'élever des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux, afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. La tristesse, les tourments de conscience, les obstacles, les raisonnements faux, le découragement. Voilà ce que sollicite, ce que fait le démon en nous pour nous empêcher d'avancer. Donc retenez-le. Tristesse, tourment de conscience, des obstacles invraisemblables, par exemple pour venir en retraite parfois, les raisonnements faux, le découragement. Cela, la plupart du temps, c'est le démon qui tourne autour. Bon, bien sûr, il peut y avoir une certaine tristesse qui est liée au tempérament. Il ne faut pas non plus le mépriser, il y a des tempéraments qui sont un petit peu comme ça, mais il faut lutter contre. Et puis le démon exploite, bien sûr. Alors l'action du Saint-Esprit, c'est l'inverse. Le bon esprit leur donne du courage, des forces, les console, leur fait répandre des larmes, leur envoie de bonnes inspirations et les établit dans le calme, leur facilitant la voie et levant devant elles tous les obstacles afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. Le bon esprit, au contraire, nous encourage dans la pratique des vertus. Il nous établit dans le calme, il donne courage, force, calme. Donc ça, c'est deux premières règles qui sont très générales. Ensuite, vous avez la 12e, celle qui est pour la première semaine. Le démon fuit si on contre-attaque avec fermeté. C'est un peu ce que nous avions dit tout à l'heure, mais le démon fuit si on contre-attaque avec fermeté. Donc si nous prenons la prière, prière humble et confiante, en priant Saint-Michel, les anges, la Sainte Vierge, si nous avons des résolutions fermes et tenues fortement, il ne faut pas céder, les sacramentaux, l'eau bénite en particulier, si nous méprisons le démon, et si nous utilisons les sacrements, donc tous les moyens habituels de sanctification, et que là, on contre-attaque, comme on a dit tout à l'heure, le démon s'en va. Il n'aime pas. Surtout la confession. Quand vous allez vous confesser et que vous ouvrez bien votre conscience, en général, le trouble disparaît. Par contre, si on commence à céder, il devient cruel. Et là, il fait encore plus. Donc, céder, c'est encore pire qu'avant. Donc, mieux vaut, on souffrira plus à céder que nous souffrirons à combattre dans le bon côté. C'est toujours un peu le même principe, la fermeté dans la résolution et dans la soumission à la volonté de Dieu. Alors, autre règle que dit Saint Ignace, c'est le secret. Le diable demande le secret, qu'on ne dise rien à personne dans sa tentation, qu'on reste seul. Surtout pas, quand vous êtes troublé, tenté, tristesse, découragement, trouvez un moyen de parler à quelqu'un ou d'aller vous confesser. Se confesser en disant tout, non seulement ses péchés, mais aussi tout ce qui trouble, tout ce qui ne va pas. Il faut dire au confesseur là, ce qui se passe. Le simple fait de parler met le démon en fuite. Et le calme se rétablit. Le fait de parler, puis ensuite le fait de se confesser donne la grâce du bon Dieu. Et le calme se rétablit. Et ensuite, une autre règle qui est importante, le diable agit comme un général, comme un capitaine qui attaque une place forte. Il cherche de côté l'endroit le plus faible, bien sûr. Le diable fait de même. Il regarde toutes nos vertus, théologales et morales, et il regarde le point faible, le moins armé, et c'est là qu'il attaque. Donc le petit défaut, le péché véniel habituel, c'est une faiblesse. Il attaque par là. Ah, c'est là où nous voyons que l'examen de conscience et la connaissance du défaut particulier, du défaut dominant, est important. Ensuite, Saint Ignace donne d'autres règles pour ceux qui font des progrès dans la vie spirituelle. Alors, je vais en sortir simplement deux. La tentation sous apparence de bien. Qui peut arriver souvent. Tentation sous apparence de bien, donc nous avons d'abord de bonnes pensées, et puis peu à peu, cela dévie vers l'omission d'un bien. Parce qu'évidemment, le diable ne nous présente jamais un mal à faire. Nous dirions non tout de suite, c'est toujours un certain bien qui nous attire. Soit c'est un bien apparent, une séduction, soit c'est un bien réel, mais avec l'omission d'un autre bien, et par là on dévie. Par exemple, faire quitter l'oraison, la prière, sous prétexte d'un service urgent à rendre. Mais si nous avions réfléchi un peu, nous aurions vu que ce n'était pas si urgent que cela et que ça pouvait attendre. Ça semble très très urgent. Comme c'est un bien à faire, nous disons, faut que je le fasse. Et nous quittons la prière pour ça. C'est l'exemple du Saint Curé d'Ars. Le diable, voyant le grand amour de la prière et de la pénitence, voyant que le Saint Curé d'Ars pleurait ses péchés, le diable lui dit, va pleurer tes péchés à la trappe, allez, va-t'en, va pleurer à la trappe. Et le Saint Curé d'Ars s'est fait avoir, parce qu'il est parti. Bon, il est revenu après, mais il a été trompé quand même. Alors, c'est pourquoi Saint Ignace dit de bien examiner nos pensées, nos décisions et nos actions. Si elles sont bonnes et calmes du début à la fin, alors c'est du bon Dieu. Mais si bonnes au début, il s'y trouve quelque chose de mauvais, de moins bon, de dissipant, de troublant, alors là, attention. Et si c'est bon et calme du début à la fin, ça vient de Dieu. Si c'est bon au début, puis qu'il s'y trouve au milieu quelque chose de mauvais, de moins bon, de dissipant, de troublant, cela vient du mauvais. Or, nous pouvons faire une application. Si dans une famille, dans une communauté, il se forme des clans, des divisions, des disputes, c'est le démon qui sème la zizanie. Mais le démon agit toujours par des instruments humains. Donc quand il y a le trouble dans une famille ou une communauté, il y a un instrument quelque part du démon. Il agit avec des instruments humains qui sèment cette division. Et si ce sont de bons chrétiens, ben, ils n'agissent pas pour le mal, donc ils agissent pour le bien. Ils agissent avec les meilleures intentions du monde. Et pourtant, ils sèment la division. Alors quoi? Qu'est-ce qui se passe? La tentation sous apparence de bien. Il y a un défaut quelque part. Il manque quelque chose quelque part. Donc il faut bien s'examiner pour voir d'où ça vient. Et en tous les cas, dès que nous voyons qu'il y a du trouble, des divisions, etc., arrêtons et ne laissons pas au diable prendre la place. C'est Saint-Esprit, l'esprit de paix et d'unité, de charité. Quand ces trois choses-là disparaissent, c'est qu'il y a l'inverse. Ça ne peut pas être du bon Dieu. Donc, attention, ça demande le renoncement à nous-mêmes. La charité, l'unité, la paix demandent le renoncement à nous-mêmes. Ce n'est pas possible sinon. Donc, s'il y a des divisions entre nous dans la tradition, divisions sur la charité, pas sur la foi, ça tient au manque de renoncement. C'est tout. Un renoncement à nous-mêmes. Et l'obéissance. Donc vous voyez, on revient toujours à des résolutions fermes qu'il faut tenir et ne pas changer, mais au contraire intensifier lorsque tout se trouble. Donc on revient à une chose importante, l'obéissance à la volonté du bon Dieu. C'est ça. Et le renoncement à nous-mêmes. Donc, faisons bien attention, le diable agit en nous et veut nous tromper. C'est le combat. Alors bien sûr, ce n'est pas en une heure que je peux tout expliquer. Donc, à l'occasion, soit dans le livre bleu, soit dans ce petit opuscule, relisez ces règles du discernement, pas toutes, relisez certaines règles du discernement des esprits. C'est un combat, n'ayons pas peur, la victoire est assurée du moment que nous faisons ce que le bon Dieu nous demande, que nous sommes fidèles à nos résolutions. La grâce du bon Dieu nous sera toujours donnée. Alors nous serons couronnés de gloire au ciel.